J'aimerais aujourd'hui parler de l'accueil. L'accueil parce que c'est un trait de caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus est accueillant? Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous en êtes conscient? Et Jésus faisait toujours bon accueil à tous ceux qui venaient d'ailleurs vers lui. Et c'est Jésus lui-même qui a dit la chose suivante. Jean, c'est un premier verset que je vous propose de lire avec moi. Jean chapitre 6, verset 37. Ne le cherchez pas, certainement il sera affiché derrière mon dos. Jean chapitre 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ce n'est pas réconfortant ça ce matin? Personne ici en ce lieu pourrait dire « Mais moi je me suis approché de Dieu et Dieu ne m'a pas accueilli. » C'est impossible. Parce que s'il y a un qui ne ment pas et qui est fidèle à ce qu'il dit, c'est le Seigneur Jésus. Et il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus a accueilli tous ceux eh bien, qui sont venus à lui, même les gens de mauvaise vie. Et à cause de cela, eh bien, cela suscitait même de l'indignation de la part des chefs religieux et donc de l'époque. Là aussi, un autre verset que je voudrais vous donner, Luc chapitre 15, les versets 1 et 2. Alors chauffez le stylo, hein, parce qu'il y a quelques versets que je vais vous donner encore ce matin. Je crois qu'on a besoin d'être abreuvé par la parole de Dieu et il nous faut citer la parole de Dieu. Luc chapitre 15, les versets 1 et 2. J'entends les bruits de feuilles et ça me plaît. Luc chapitre 15, versets 1 et 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes le murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie. » Et même, il mange avec eux. Et il faut savoir que à l'époque, les pharisiens avaient une profonde aversion, non seulement pour les païens, mais également les samaritains, les publicains, et également les gens de mauvaise vie, les pécheurs notoires. Et vous voyez, Jésus, quand il est venu ici-bas, il est venu pour révéler le cœur d'amour du Père. Il est venu pour casser les codes humains, les codes condamnables, car c'était injuste. Le deuxième commandement, et le Seigneur l'a cité, il a dit « Tu aimeras ton prochain comme ?» Comme toi-même. Et Jésus est venu avec plein de bonté, plein de compassion, plein de grâce. Il a accueilli tous ceux et celles qui venaient vers lui. Vous savez, Jésus est l'exemple suprême, l'exemple qui nous fascine. Il est le modèle que nous voulons suivre. C'est pour cela que nous sommes là. Non pas pour ressembler à X ou à Y, mais avant tout pour ressembler à ce Seigneur Jésus-Christ, ce Seigneur de gloire. Amen, frères et sœurs. Ressembler à Jésus, c'est notre désir. Et aujourd'hui, le Seigneur, eh bien, Jésus, il désire que nous suivons son exemple concernant l'accueil. J'aimerais donc que nous méditions ce matin et nous arrêtions sur trois autres catégories d'individus ou de personnes qu'il nous faut également accueillir favorablement, tout comme le Seigneur l'a fait pour les gens de mauvaise vie. Est-ce que vous les connaissez, ces trois catégories de personnes que Dieu veut faire mention ce matin devant nos cœurs? Vous les connaissez? Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les dire. Première catégorie de personnes qu'il nous faut accueillir, et ça c'est l'évidence même, il nous faut accueillir les frères et les sœurs dans la foi. Ah, je n'ai pas bien parlé, hein. Il nous faut accueillir les frères et les sœurs dans la foi. Ah, voilà. Romains chapitre 15, verset 7 nous dit la chose suivante. Un verset très court, mais qui en dit long. Il nous est dit, et c'est l'apôtre Paul, bien sûr, qui s'adresse à l'église qui se trouvait dans la ville de Rome. Romains chapitre 15 et le verset 7. Je le cherche avec vous. Romains chapitre 15 et le verset 7. Il nous est dit, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » J'ai une autre version pour vous. « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Est-ce que ce matin, vous avez fait accueil à celui qui est à votre droite ou à votre gauche? Si vous ne l'avez pas fait, je vous donne quelques secondes pour le faire maintenant. Regardez-le, celui qui est à votre droite. Bonjour, sois le bienvenu, mon frère, ma sœur. Sois le bienvenu ici à la maison de Dieu. C'est ça, l'accueil. Accueillez-vous et le faire de manière sincère, d'une manière vraie. Pourquoi l'apôtre Paul a été amené à dire ces choses? Alors là aussi, il faut savoir que du temps de l'apôtre Paul, les chrétiens d'origine juive avaient beaucoup de mal à pouvoir à bien accepter eh bien, les chrétiens d'origine païenne. Parce que depuis leur plus tendre enfance, les juifs, eh bien, on leur enseignait de ne pas côtoyer les non-juifs. Et on a beau dire, on vient au Seigneur, mais il y a quelquefois des racines que Dieu a besoin encore de couper, d'arracher. Des mentalités que le Seigneur a besoin encore de transformer au-dedans de nous. On a même l'exemple de l'apôtre Pierre qui, à un moment donné, a dû être repris par l'apôtre Paul. Est-ce que vous vous rappelez de ce passage dans Galates chapitre 2? Ne le cherchez pas, on n'a pas le temps de le relire. C'est qu'à un moment donné, l'apôtre Pierre était assis avec bien des chrétiens non-juifs, je précise, à table. Et alors qu'à un moment donné, des juifs venant de Judée bien entraient dans le lieu là où ils se trouvaient, bien Pierre a eu à ce moment-là des comportements équivoques. Il s'est petit à petit mis un peu à l'écart à cause du regard des autres, à cause de cette mentalité qui était là. Les juifs ne devaient pas avoir bien de contact avec les non-juifs. Et je fais un parallèle, parce qu'encore aujourd'hui, cette mentalité, sous d'autres formes, peut se retrouver dans nos églises locales. Et je voudrais vous donner des exemples. Certains chrétiens ne vont pas vous faire bon accueil. Pourquoi ? Juste parce que vous n'êtes pas de la même dénomination qu'eux. Ah, t'es pas du mouvement Assemblée de Dieu ? Ah, mais comment ça se fait ? Et ils ne vont pas vous le dire, mais insidieusement, ils vont s'éloigner de vous. D'autres chrétiens, parce que vous n'avez pas à peu près le même parcours qu'eux, ils ne vont pas non plus vous faire bon accueil. Ou parce que vous ne pensez pas comme eux, ou que vous ne vivez pas votre vie chrétienne comme eux, ils ne vont pas vous faire bon accueil. Ils sont là avec vous, dans le même endroit, dans la même église, mais ils ne vous feront pas bon accueil. Certains chrétiens ne vous feront jamais accueil parce que vous n'êtes pas au même niveau spirituel qu'eux. Eh oui. Que Dieu nous garde, qu'ici à l'église d'Istre, parce que vous avez compris que je ne suis pas en train de décrire ce qui se passe ici. Et s'il venait à se passer ces choses, gare. Nous voudrions considérer que Dieu nous a mis tous sur un même piédestal. Vous savez, en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a pas de blanc, black, blur, au-delà de toutes ces choses, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et quand on a compris ces choses, eh bien on reste dans la paix. Quand on a compris ces choses, on ne ressemble pas à ce pharisien. Vous connaissez tous cette parabole que Jésus a annoncée aux Juifs, à qui ils voulaient bien l'entendre. Ce pharisien qui rentre bien dans la même église, et ce n'était pas l'église d'Istre. Ce pharisien et ce publicain qui rentraient dans la même église, ils étaient membres de la même église. Et ils allaient bien ce même soir à la réunion de prière. Et la Bible nous raconte que le pharisien, levant les yeux, formule une prière intérieure. Heureusement qu'il n'a pas dit à voix haute cette prière. Quelle honte! Et cet homme va dire, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, arrivé à louer et adorer le Seigneur, tout en même temps mépriser et ne pas accueillir celui qui est peut-être différent de nous, celui qui est peut-être avec des faiblesses, celui peut-être qui a besoin encore de faire des progrès et qui a besoin de notre amour. » Tous ces exemples cités précédemment dénoncent, hélas, un profond manque d'amour. Avons-nous entendu ce que Dieu nous a dit ce matin ? On a besoin encore d'avoir une révélation de l'amour de Dieu, un amour qui a même amené le Seigneur à aller au-devant de cette Samaritaine. Les disciples qui suivaient galéraient, les pauvres, parce que Jésus les a fait monter dans les montagnes de Samarie. Et pour atteindre ces villages, il fallait du courage. Mais Jésus avait ce courage. Son amour était courageux pour aller au-devant de cette femme qui avait une vie difficile et pour lui proposer de l'eau, et pas n'importe quelle eau, l'eau vive. Voilà ce qu'est capable de faire l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Jésus, il a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Il précise « Comme je vous ai aimé. » Et l'amour de Dieu, il se traduit aussi par l'accueil. Si j'aime, si l'amour de Dieu est dans mon cœur, alors je vais accueillir. Et je vais le faire avec sourire, non pas avec contrainte, ce sera naturel. Parce que le surnaturel est venu au-dedans de moi, je n'aurai pas d'effort à faire. Parce que je laisse le Saint-Esprit bien prendre le relais et travailler mon cœur. Je vais aimer, point barre. On est même attiré par la personne, parce que l'Esprit de Dieu nous anime. Aimez-vous les uns les autres. Alors on l'a lu, on revient sur ce passage, Romains chapitre 15, verset 7. L'apôtre Paul dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, comme Christ. » Il faut que tu accueilles comme Christ. L'accueil que nous devons donner à l'égard de nos frères et de nos sœurs doit être à la hauteur de l'accueil que Jésus a eu à notre égard. Est-ce que nous nous réalisons de quelle manière Dieu nous a accueillis ? Je sais qui j'étais. Je sais où est-ce que le Seigneur m'a cherché. Et je peux vous dire qu'on peut être dans une famille chrétienne, mais pourtant être loin, loin de Dieu. Et c'était mon cas. Et Jésus m'a accueilli, malgré ce que j'étais, malgré ce que je faisais, malgré bien les ténèbres qui remplissaient mon cœur. Jésus m'a accueilli. Et je bénis le Seigneur il y a 31 ans de cela, ou ce jour où le Seigneur m'a appelé et m'a tiré à lui. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Et depuis, je marche avec lui. Et je sais que je ne suis pas le seul. Et je suis heureux, alléluia, de connaître Jésus. Amen. Réjouis-toi, mon frère, de connaître cet amour qui t'a accueilli. Alors Dieu te demande de manifester ce même amour. Et puis, regardez au verset 7, à la fin de ce même verset, il nous est dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et si Christ nous a accueillis, c'était pour que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et de la même manière, eh bien, lorsque nous accueillons les uns les autres, nous glorifions le Seigneur. Tournez-le comme vous voulez. Lorsque j'accueille mon frère, ma soeur, je glorifie le cœur même du Père. Nous devons tous apprendre de mieux en mieux à nous accueillir les uns les autres, à nous apprécier les uns les autres. Arriver à regarder, alléluia, dans la personne humaine, dans le prochain, alléluia, gloire à Dieu, toute la gloire de Dieu, que Dieu soit béni. Deuxième catégorie de personnes à accueillir, s'il nous faut accueillir les frères et les sœurs dans la foi, il nous faut également accueillir les faibles dans la foi. Et ça, c'est encore l'apôtre Paul qui nous le dit. Alors j'attends que la personne puisse éteindre son portable. Voilà. Si vous avez du mal, essayez de l'éteindre là-bas. Vous allez voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vas-y. Voilà, au fond. Au fond. Voilà. 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 Si on appuie bien sur le bouton, il fait silence. Hein. Accueillir également les faibles dans la foi. C'est tellement important. Romains chapitre 14, les versets 1 jusqu'à 3. Et nous lisons ensemble, donc on n'a pas beaucoup de pages à tourner, juste le chapitre précédent. Romains chapitre 14, du verset 1 à 3. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et de grâce, ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Un végétarien. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car, aidez-moi, car Dieu l'a accueilli. Vous savez, de tout ce verset, ce qu'il y avait quelque chose à retenir, c'est celui-là, Dieu l'a accueilli. Dieu a accueilli l'un comme l'autre. Dieu a accueilli celui qui mange et celui qui ne mange pas. C'est ça l'essentiel, et on devrait peut-être méditer sur cela. Mais on pourrait quand même se poser la question qui était les faibles dont Paul fait mention. Et les faibles dont Paul fait mention étaient certainement des chrétiens nouvellement convertis, convertis à la foi, convertis au Seigneur Jésus-Christ et qui pensaient peut-être qu'il fallait qu'ils s'abstiennent de certaines nourritures, certains aliments. Et de plus, ils pensaient qu'ils étaient tenus de pouvoir observer quelques jours par rapport à d'autres. Et en cela, il faut le dire, ils étaient réellement faibles dans la foi. Ce n'est pas péjoratif. Mais il faut reconnaître qu'ils étaient faibles dans la foi. Car Paul le dira un peu plus bas au verset 17. On va rester sous le chapitre 14. Vous allez voir, on va parcourir et lire quelques versets. Romains chapitre 14, verset 17. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Je vais vous le lire dans la version Parole de vie. Déjà, je vous le lis dans la version seconde. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a compris ça, frères et sœurs ? Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec la question de manger et la question de boire. J'ai une autre version, la version Parole de vie. Il nous est dit, en effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie données par l'Esprit-Saint. Et s'il n'y avait que ce verset, il y en a d'autres. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8. Nous dit la chose suivante, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Un autre passage également, Colossiens chapitre 2 et le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Frères et sœurs, si on n'a pas compris avec ça, je ne sais pas. Et pour rappeler également ce que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui souille l'homme. C'est ce qui sort de la bouche. C'est ça qui souille l'homme. Et quand on a compris ça, frères et sœurs, eh bien, on est détendu. On ne rentre plus dans des luttes, dans des palabres et dans des polémiques et dans des opinions qui ne mènent à rien. Paul encore, on revient au chapitre 14, Romains chapitre 14 et le verset 14, il va dire lui-même, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Et la boucle est bouclée. Mais par amour, eh bien pour ses bien-aimés de l'église de Rome et pour préserver la paix au sein de cette église, Paul va se tourner vers les forts, c'est-à-dire ceux qui avaient une certaine maturité, qui avaient compris eh bien, cette liberté, cette grâce dans laquelle nous sommes rentrés. Eh bien, Paul va les encourager non seulement à ne pas mépriser les faibles dans la foi, mais mieux encore à pouvoir les accueillir. Accueillir ceux qui sont faibles dans la foi. Tu as compris des choses plus que ton frère, ta sœur ? C'est bien. Mais sois intelligent et rempli d'amour pour pouvoir eh bien, partager ces choses. Et si la personne n'a pas compris, ne rentre pas en lutte avec elle. Aime-la, considère-la, accueille-la. Et puis Paul aussi, à l'inverse, va exhorter les jeunes chrétiens, les faibles dans la foi, qui pratiquaient ces abstinences et ces observances, à ne pas juger ceux qui ne mangeaient pas, ceux qui mangeaient de tout, excusez-moi. L'apôtre Paul s'est adressé aux deux. Voilà, je pense, quelque part, la maturité auquel eh bien, l'apôtre Paul voulait amener cette église et tous ses membres, eh bien, cette maturité qui ne consiste pas à entrer dans des polémiques et dans des discussions de mots, mais de pouvoir exercer l'amour qui se traduit par l'accueil, et ça c'est important. Au final, ce qui est important, c'est de ne pas juger les uns les autres. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est qu'on reste dans l'unité, c'est qu'on reste dans l'amour. Ce qui est important, Paul le dit, Romains chapitre 14 et le verset 13 également, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Et combien de chrétiens, on le voit, ont perdu du temps, j'ai même envie de dire de l'énergie à entrer dans des discussions folles et inutiles, des opinions qui ne remettent pas en cause les fondements inébranlables de la parole de Dieu. Je ne parle pas de la doctrine elle est ce qu'elle est. Elle est écrite noir sur blanc, il n'y a pas à tergiverser dessus. Mais je parle eh bien de ces différents points de vue qui ne remettent pas en cause donc notre salut. Et je donne là aussi quelques exemples, certains préfèrent la coupe plutôt que les petits gobelets. Est-ce que c'est important ça, frères et sœurs ? Est-ce que c'est réellement important ? Croyez que le Dieu d'amour va vous envoyer en enfer parce que vous n'avez pas pris la coupe plutôt que les gobelets ou vice-versa ? Ce qui est important, c'est de comprendre que finalement, celui qui prend la coupe comme celui qui ne prend pas la coupe, Dieu l'accueille. Le salut est trop important que ça. Tellement le salut est important, tellement l'enfer est quelque chose d'horrible que Dieu a dû dépêcher son fils Jésus-Christ pour qu'il vienne prendre notre place. Certains se lèvent pour louer Dieu durant le moment de louange, d'autres préfèrent rester assis. Est-ce que c'est gênant ça ? En quoi ça te gêne, mon frère, ma sœur ? Et ce sera intéressant, c'est le temps qui nous manque de relire tout le chapitre 14. Et au verset 4, il est dit, « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, celui qui se lève debout et qui loue son Dieu comme cela, de cette manière ? Il sert son Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît son cœur. Vous savez, on n'a pas à juger parce que le juste juge Dieu sera le faire en temps et en convenable. » Et il ne se trompe pas, lui. Et nous, on peut si facilement se tromper. Quelqu'un dit, je crois, dans l'une des prières ou des prophéties, eh bien que... À un moment donné, il y a Anne qui était là devant son Dieu. Elle avait une souffrance dans le cœur. Elle remuait les lèvres. Et le sacrificateur qui était là pensait qu'elle avait bu. Combien on peut se tromper ? Il n'y a que Dieu qui sait lire les cœurs. Il n'y a que Dieu qui voit le cœur de ton frère, de ta sœur. Ce qui est important, c'est de servir Dieu de tout notre cœur. Et on sert Dieu eh bien, par notre amour. L'un boit du vin et l'autre pas. C'est quoi le problème ? On a compris, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. L'un mange du porc et l'autre pas. Vous voulez savoir si je mange du porc, hein ? Ce n'est pas ce qui est important. Regardez ce que dit encore l'apôtre Paul. Il est vraiment intéressant, ce chapitre 14. Ça a été finement préparé. Et là, on voit vraiment l'Esprit de Dieu qui a inspiré cet homme de Dieu à pouvoir nous écrire ces choses. Romains chapitre 14, versets 19 à 21. On va le lire. Ainsi donc, Romains chapitre 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Entendez le cœur de Dieu qui parle. C'est pourquoi le sang de son Fils a coulé. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, va-t-il encore renchérir l'apôtre Paul, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à pouvoir bien accueillir non seulement nos frères et nos sœurs dans la foi, mais également de nos frères et de nos sœurs qui sont faibles dans la foi, qui peut-être n'ont pas encore compris la dimension dans laquelle vous êtes et la révélation que Dieu vous a apportée. Priez au contraire pour ce frère ou cette sœur, afin que Dieu, à son tour, puisse l'éclairer. Il faut terminer. J'ai parlé de trois catégories de personnes. Est-ce que vous voulez découvrir la troisième et dernière catégorie ? Vous êtes sûr ? C'est dans l'Ancien Testament. Allez, je vous fais voyager. C'est dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 33 et le verset 10. Pour revenir à cette histoire qui me meut encore, c'est l'histoire de Jacob. Jacob qui plus tard a été appelé et désigné par Dieu comme Israël. Israël qui fait parler encore d'elle, encore aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes le peuple d'Israël spirituel. Mais d'abord, avant d'être appelé Israël, il s'appelait Jacob. Jacob veut dire supplanteur. Et voilà ce que cet homme va dire dans Genèse chapitre 33 et le verset 10, on va le lire ensemble. Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. » Et ce qu'il va dire par la suite nous interpelle et concerne bien sûr le thème de notre message. Et tu m'as accueilli favorablement. Il s'adresse à son frère. De quel accueil favorable Jacob faisait-il mention, si ce n'est l'accueil bienveillant que lui fit son grand frère, Ésaü, lorsque ce premier, Jacob, implora son pardon. La troisième catégorie de personnes à accueillir, ce sont ceux et celles qui implorent notre pardon. On peut dire amen, frères et sœurs. Ceux qui implorent notre pardon. On le lit, et pour bien comprendre le contexte de cette histoire, dans Genèse chapitre 33, du verset 1 à 4, regardez ce qu'il est dit. Jacob leva les yeux. Jacob avait fait du voyage. Il était parti entre autres chez son oncle Laban, Dieu l'avait béni, etc. Mais Jacob arrive à un tournant de sa vie, et alors qu'il est là, dans sa marche chrétienne, Jacob lève les yeux et il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit ? Et voici, il constate que son grand frère Ésaü arrivait avec 400 hommes. Et il y avait effectivement comme un contentieux, comme une vieille histoire, un lourd passé entre ces deux frères de sang, je précise. Et Ésaü, le grand frère, comptait régler la question à coup d'épée, puisqu'il venait devant son petit frère avec 400 hommes. Vous savez, la Bible dit que les querelles entre frères sont comme les verrous d'un palais. On le voit vraiment là. Pour un seul homme, à cause de la puissance de la vengeance, Ésaü a rassemblé 400 hommes derrière lui pour liquider une fois pour toutes son petit frère qu'il avait à l'époque offensé. C'est vrai que Jacob avait fait une pagaille dans sa famille. Il avait mis dessus toute sa famille. Il était en dos. Il avait mis à dos même ses parents. Il était parti presque en fuite. En fuite parce que son frère s'était juré de pouvoir le tuer, le détruire. Mais on continue la lecture et il nous est dit, au toujours au verset 1, il répartit, c'est qui il, c'est Jacob, répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Et là, je souligne, Jacob le supplanteur, celui qui arrivait à passer au travers les mailles du filet, celui qui trompait tout le monde. Là, il assume. Il se met devant toute sa famille, face à son frère qui venait avec 400 hommes. Voilà un homme qui est transformé. Voilà un homme qui est littéralement changé. Et ce qu'il nous est dit par la suite est encore plus extraordinaire. Et Jacob se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Je ne voudrais pas vous faire le schéma, je serais tellement tenté. Il voit son frère arriver. Il se met devant toute sa famille. Il se prosterne une première fois. Et il se relève avec la force que Dieu lui donne. Et il se prosterne une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à 7 fois. Le chiffre parfait de Dieu. Il comptait sur son Dieu. Et il se prosterne. Il implore le pardon à l'égard de son frère. Regardez comment Jacob s'humilia. Comment il implora le pardon de son frère. Ce n'est pas un pardon superficiel. Ce n'est pas un pardon qui essaie de se justifier, trouver des oui, mais des... Non, il assume. Et il vient d'une manière humble devant son frère. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Il fait la démarche en sorte que son frère puisse répondre favorablement. Il fait la démarche parce qu'il sait que son Dieu le voit. Et Dieu fera sa part dans ce domaine-là. Mais il attend que nous faisons sincèrement la nôtre. C'est tellement, tellement important. Et vous voyez le résultat. Et le résultat, il fut sans appel. Regardez au verset 4 avec moi. Genèse, chapitre 33, verset 4. Ésaü courut. Non pas l'épée à la main. Non pas la haine sur le visage. Non. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et qu'est-ce qu'ils firent ensemble? Ils pleurèrent. Toute cette rancœur, toute cette amertume, tout est parti. Ceux et celles qui ont connu la puissance du pardon peuvent comprendre ce que je suis en train de dire ce matin, ce que je suis en train de lire ce matin. Je m'appelle ce jour où j'ai écrit à cette personne parce que Dieu m'avait demandé de lui écrire et lui demander pardon, d'implorer son pardon. La délivrance que j'ai reçue à ce moment-là, alors que j'étais en train d'écrire parce que cette personne n'était plus à portée de main, elle était dans un autre pays et je devais t'envoyer ce courrier parce que Dieu me l'avait demandé. Et alors que j'étais en train d'écrire ce courrier, une délivrance, quelque chose d'invisible, mais bien lourd, est sorti de mon cœur. Et je comprenais que Dieu m'accordait la délivrance. Car quand on accorde le pardon, qu'on implore le pardon, quand on fait ce que Dieu nous demande, il y a des bénédictions, des grâces qui tombent sur nous. Est-ce que vous le croyez? Le même Ésaü qui était venu avec la ferme résolution de tuer son frère, le voilà maintenant en train d'enlacer son frère, de l'embrasser, de pleurer avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, le Seigneur, il fera sa part. Mais il attend que nous puissions faire la nôtre. Es-tu prêt ce matin à faire la tienne? Tout cela n'a pu se faire qu'après que Jacob ait eu ce face-à-face avec Dieu. Et là aussi, c'est le temps qui nous manquerait pour relire tout le chapitre 32, surtout la fin du chapitre 32, pour comprendre qu'à un moment donné, avant de voir son frère capituler devant la toute-puissance de Dieu, parce que Dieu est capable de changer le mal en bien, il fallait lui-même qu'il puisse capituler devant son Dieu. Il devait avoir ce face-à-face avec cet ange. Cet être étrange, on parle d'un homme, mais vous avez compris que c'est plus qu'un homme qui était là à lutter toute la nuit avec Ésaü. Jacob a compris que c'était ni plus ni moins l'ange de l'Éternel. Et il implore la bénédiction. Seigneur, bénis-moi, je ne te quitterai pas que tu ne m'aies béni. Relisez ces passages. Voilà un homme qui avait un cœur pour Dieu. Un homme qui était sincère avec son Dieu, malgré ses défauts. Et Dieu lui a fait grâce. Dois-tu pardonner à celui qui t'a offensé? Ce matin, j'ai envie de te dire, suis l'exemple d'Ésaü, qui a accueilli favorablement son frère repentant. Vous savez, si Dieu nous a graciés en effaçant la dette qui a été occasionnée par notre péché, Dieu en retour exige que nous puissions effacer la dette de celui ou celle qui aurait pu nous offenser d'une manière horizontale. Dieu l'exige. notre dette était immense. On était tous coupables. Je serais capable de faire rougir peut-être certaines personnes si je vous racontais ce que j'étais avant. Mais ce qui est essentiel, c'est que le Jésus de gloire, celui qui a pris ma place et votre place sur la croix, a pardonné mon péché. Il m'a gracié. Car lui aussi, en son temps, a imploré Dieu son Père pour que nous soyons justifiés en retour, pour que nous soyons pardonnés en retour. Et il a plaidoyé, il a plaidé auprès de son Père avec son propre sang. Il a livré sa vie sur la croix. C'est ce que nous annonce le message de la croix. Cette croix, il faut qu'elle soit devant toi, mon frère, ma sœur, pour qu'il te donne la force et le courage de pouvoir aller au-devant de celui ou celle avec qui tu es en conflit pour une fois pour toutes te pardonner. Pour une fois pour toutes être délivré. Car lorsqu'on pardonne, eh bien finalement, c'est pour nous libérer nous-mêmes. Et ça, on l'a compris. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais juste conclure. Et conclure avec un autre passage, cette fois-ci dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 1 et le verset 21. Et après quoi nous allons prier ? L'apôtre Jacques va dire, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. J'ai une autre version pour vous. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Cette parole, je vous le dis, elle a été semée dans les cœurs. Elle peut se retrouver sur un terrain piétiné, déjà piétiné peut-être même par les hommes, piétiné par cette propre amertume. Mais plaise à Dieu que cette semence ce matin, ce que Dieu a voulu nous dire concernant l'accueil, puisse trouver des terrains travaillés de nos cœurs afin que nous puissions aller de l'avant. Le Seigneur, il nous avertit, il nous prévient à l'avance. Il est à la porte et il ne prendra rien de souillé derrière lui. Ceux qui monteront, qui décolleront à sa rencontre seront ceux et celles bien qui auront non seulement accueilli la parole de Dieu, mais mieux encore l'auront mise également en pratique, parce que le simple fait de recevoir cette parole, d'accueillir cette parole, ça consiste ni plus ni moins à la mettre en pratique. Et tu sais ce que Dieu t'a dit ce matin. Que vas-tu faire de cette parole? Vas-tu encore la rejeter? Vas-tu continuer à endurcir le cœur? Il y en a un qui a endurci son cœur, Pharaon, et où il est maintenant? Mais Dieu t'aime, et parce qu'il t'aime, il te parle ainsi. Prions ensemble le Seigneur. Tu es le Dieu qui accueille. Tu es le Dieu qui nous a accueillis un jour. C'est pour cela que nous nous plaisons, Seigneur, dimanche après dimanche, et aussi au travers de nos réunions hebdomadaires, à te louer, à t'adorer, parce que tu es un grand Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour nous gargariser, pour nous complaire en nous-mêmes. Nous sommes venus pour entendre ta parole, une parole de vie, qui est capable de nous donner, Seigneur Père, la vie, de nous communiquer la vraie vie. Seigneur Père, nous voudrions, comme on vient de le lire, recevoir cette parole et qui a le pouvoir de nous sauver. Et Seigneur, en tout point, elle a le pouvoir de nous sauver. Et Seigneur, je te prie encore ce matin de nous aider à nous accueillir les uns les autres. Je te prie pour l'Église, dis ce qui t'appartient, j'aime à le dire. Et cela, Seigneur, me rassure, cette Église t'appartient. Seigneur, nous voudrions que le Saint-Esprit puisse contrôler cette Église, puisse la mener encore plus loin. Nous voudrions voir ta gloire, des miracles et des prodiges. Nous voudrions voir, Seigneur, Père mon Dieu, des hommes, des femmes, passer de la mort à la vie, naître, que ce soit une véritable pouponnière spirituelle, pour voir des naissances, pour voir des hommes et des femmes, Seigneur, frapper leur poitrine et crier, Seigneur, à Dieu, pour leurs péchés. Mais Seigneur, tout cela a prié, aide-nous, Seigneur, par l'amour, à pouvoir, Seigneur, avant toute chose, nous accueillir les uns les autres. Seigneur, ne pas nous mépriser ou même nous juger les uns les autres. Accueillir ceux, Seigneur, qui peuvent être faibles dans la foi. Seigneur, sur certains points, Seigneur, de leur vie chrétienne. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir aussi accueillir tous ceux et celles qui pourraient nous offenser. Tant qu'on sera ici-bas, Seigneur, nous serons des êtres imparfaits. Et nous aurons besoin, Seigneur, d'accorder le pardon comme de le recevoir de ta part et des autres. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses et à avoir une grande joie à pouvoir pardonner. Et ce matin, tu veux encore, Seigneur, affranchir et libérer. Ce matin, Seigneur, tu veux encore te manifester.